L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 novembre et donc bienvenue pour une nouvelle édition de cette émission autour de l'actualité locale ici en Mayenne. Bonjour Claire.
Bonjour tout le monde, en direct à Laval, toujours Marie.
Comment ça va aujourd'hui ?
Ouais, ça va très bien, un peu frais ce matin, mais le ciel est bleu, tout va bien.
Parfait, le petit point météo, Claire adore la météo, hein. Vous avez dû le comprendre si vous nous écoutez assez régulièrement. Mais on va parler météo, mais aussi plein d'autres choses, et notamment quelques jours avant le début de la grande collecte nationale de la Banque alimentaire, on va s'intéresser comment ça se passe en Mayenne avec le responsable justement de cette collecte. L'archéologue Hugo Meunier nous décrit les jolies découvertes du diagnostic archéologique de la place du 11 novembre à Laval, on va l'écouter. Et puis on poursuit notre série à la résidence Habitat Jeune Pierre de Coubertin à Laval, le confinement vu et vécu par la directrice.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, deux députés mayennais s'opposent à la loi sur la sécurité globale.
Le texte est voté cet après-midi à l'Assemblée nationale, mais il n'aura pas les voix de Guillaume Garot et Yannick Favennec. Le député du Nord-Mayenne émet notamment des réserves sur le fameux article 24 qui vise à sanctionner la diffusion d'images de policiers ou de gendarmes en intervention dans le but de porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Ce serait potentiellement attentatoire à la liberté de presse pour le député. Et puis pour Guillaume Garot, les textes vont au contraire aggraver les difficultés et les tensions déjà existantes avec les forces de l'ordre.
7000 nouveaux masques pour les écoliers de Laval.
La municipalité vient de passer une nouvelle commande pour les élèves des écoles primaires âgés de 6 à 11 ans. Les masques viennent de l'entreprise textile GLM Fashion implantée à Luisery et la distribution commence dès aujourd'hui. 8 autres commandes de l'agglomération ont elles aussi passé commande, soit 3000 masques supplémentaires au total.
Deux manifestations prévues ce jeudi après-midi.
À l'appel de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Mayenne, pour réunir tous les commerçants et artisans du département contraints de fermer pendant le confinement, le rendez-vous est donné ce jeudi après-midi sur l'esplanade du Château-Neuf à Laval, avec un slogan qui regroupe tout. Laissez-nous travailler. Rassemblement prévu aussi à 14h ce jeudi devant la préfecture de Laval par les syndicats Force Ouvrière, CGT et Sud. Ils réclament l'extension de la revalorisation de 183 euros mensuels pour tous les agents du service médico-social.
Et le bel hommage de Saint-Pierre-sur-Erve à son ancien maire.
Le village mayennais était tout illuminé hier soir de centaines de bougies aux fenêtres dans les rues en hommage à l'ancien maire de la commune, Marcel Mottet. Il est décédé à l'âge de 88 ans le 17 novembre dernier. Clin d'œil d'ailleurs à l'une de ses créations, une fête des Lumières chaque année au mois d'août. Commune, il a été maire de sa commune pendant 3 mandats entre 1995 et 2014.
Marie, les voyages scolaires sont annulés, les organisateurs sont inquiets.
Décision annoncée la semaine dernière par Didier Valex, le directeur d'Académie de la Mayenne. Tous les séjours scolaires sont donc annulés jusqu'à fin juin 2021 à cause de la crise sanitaire et du plan Vigipirate relevé à son maximum. Décision incompréhensible pour Julien Piccolo, le directeur de la PEP 53, les pupilles de l'enseignement public en Mayenne. Il craint l'impact pour les 20 salariés permanents de l'association et la centaine de saisonniers. La Ligue de l'enseignement de la Mayenne, elle, regrette une décision qui, je cite, prive enseignants et élèves d'un espace de respiration.
Mayenne Culture recherche des danseurs pour un spectacle l'an prochain.
Le chorégraphe Christophe Garcia propose une création inédite intitulée Les Nuits d'été, spécialement imaginée pour le musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien. Elle réunira des danseurs amateurs et professionnels. Pour participer à cette compagnie éphémère créée par Mayenne Culture, il faut s'inscrire avant le 11 décembre par téléphone au 02 43 67 60 90 ou par mail à contact@mayenneculture.fr. Le projet est ouvert à toutes les danseuses et danseurs de plus de 16 ans ayant une pratique régulière.
Et c'est parti sur la route du Vendée Globe, Fabrice Amédéo poursuit sa remontée.
Le skipper de Newrest Arrêt Fenêtre et occupe désormais la 25e place, tandis qu'on retrouve à la 15e place Maxime Sorel sur son bateau VNB Mayenne.
Et Marie, la Banque Alimentaire lance sa grande collecte nationale vendredi.
Ce vendredi 27 et samedi 28 novembre, vous les verrez dans les grandes surfaces avec leur gilet orange. Les bénévoles de la Banque Alimentaire en Mayenne seront prêts à recevoir vos dons de produits alimentaires secs ou de produits d'hygiène. Pas d'aliments qui se conservent au frigo, bien sûr. Une collecte encore plus importante cette année à cause de la crise sanitaire, comme l'explique Patrick. Il est bénévole responsable de la collecte de la Banque Alimentaire en Mayenne.
Là, les réserves alimentaires de la banque sont quand même assez en forte diminution et c'est important de maintenir ces deux jours de collecte en mettant en place toutes les mesures barrières nécessaires pour assurer la sécurité de nos bénévoles. Le nombre de bénéficiaires déjà a augmenté du fait de la situation, hein, donc il y a des gens qui sont, il y a plus de gens qui sont dans la précarité et donc et qui ont besoin de l'aide alimentaire. Donc au niveau des associations, le volume de distribution a quand même sensiblement augmenté. On compte sur le volume qu'on va pouvoir collecter lors de ces deux jours pour assurer le maintien de cette aide alimentaire dans des proportions raisonnables. Du fait de la situation effectivement sanitaire, les produits d'hygiène en fait sont en forte hausse au niveau des demandes. Tout ce qui est savon, produits de nettoyage, enfin, beaucoup de produits d'hygiène qui nous sont demandés actuellement. Pour la collecte, il y a des bénévoles effectivement qui ont été un peu frileux quant à leur participation à ces deux jours de collecte, parce que on ne peut pas imposer aux gens de participer à une collecte si effectivement ils ne sont pas rassurés. On a lancé une grande opération de recherche de bénévoles qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Donc on a beaucoup de jeunes qui se sont inscrits pour participer à cette collecte, à ces deux jours de collecte. Après la collecte, on va partir sur deux voire trois semaines de tri. Tous les dons qui vont être collectés vont être entreposés pendant deux, trois jours par rapport au Covid. Hein. Le tri va commencer à partir du mercredi 2 décembre. En fonction de la durée, on aura peut-être besoin de bénévoles pour assurer le tri de tous ces produits.
En soutien aux 80 bénévoles engagés tout au long de l'année, la Banque Alimentaire espère avec cette action récolter 60 tonnes de produits, soit l'équivalent de 120 000 repas. Et si vous ne pouvez aider ni à la collecte ni au tri, vous pouvez toujours faire un don en ligne sur le site monpaniersolidaire.org. Des fouilles archéologiques vont-elles être entreprises en plein centre-ville de Laval? C'est tout l'objet du diagnostic qui s'est terminé il y a 3 semaines. Tous les détails d'ici quelques minutes, après avoir écouté Smokey Joe and the Kid, Running to the Moon.
Walking.
Vous êtes bien sur l'autre radio et vous écoutez l'agité du local. Y a-t-il des trésors archéologiques sous la place du 11 novembre à Laval ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais un diagnostic a été entrepris depuis mars 2019 dans les travaux d'aménagement du centre-ville. La deuxième phase s'est achevée fin octobre. Premier bilan des découvertes réalisées avec l'archéologue en charge du projet. Hugo Meunier, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes archéologue pour la ville de Laval et en charge notamment du diagnostic archéologique de la place du 11 novembre, évidemment à Laval. Diagnostic qui a été fait avant les travaux du centre-ville. Un diagnostic qui a commencé en mars 2019. Pourquoi en fait ? Comment est-ce qu'on décide en fait à quel endroit on va commencer ces diagnostics archéologiques ?
Alors là, on rentre dans le cadre de la législation sur l'archéologie préventive. Donc, il s'agit de vérifier s'il n'y a pas des vestiges archéologiques avant tout aménagement. Et là, en l'occurrence, pour la place du 11 novembre à Laval, c'est le projet de réaménagement complet de la place qui a enclenché cette procédure d'archéologie préventive.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce processus, il est obligatoire. À chaque fois, il y a ce diagnostic ?
Exactement. Si on est dans un secteur avec une sensibilité archéologique connue, en tout cas par les services de l'État, eh ben l'État, le préfet de région, là en l'occurrence, prescrit un diagnostic archéologique pour vérifier si effectivement il y a des vestiges ou non. Et c'est obligatoire, hein, c'est dans la loi depuis 2001.
Et alors justement, ce terme de diagnostic archéologique, il n'est pas employé au hasard puisque c'est pour décider si d'éventuelles fouilles, pour le coup, vont être entreprises après. Et donc justement, comment ça s'est passé ? Donc là, en mars 2019, ça commence pour quelques semaines. Qu'est-ce que vous avez découvert déjà ? Sur quel gros morceau vous êtes tombé ?
Alors oui, il faut distinguer. Effectivement, la première tranche en 2019, là on a eu des vestiges assez intéressants, puisqu'on a eu notamment une tour médiévale de l'enceinte qui protégeait le quartier du Val de Mayenne. Donc une tour du 15e siècle, hein, 14e ou 15e siècle, on ne sait pas exactement. Mais c'est une grosse tour, hein, une maçonnerie de 8 mètres de diamètre, vraiment un ouvrage assez conséquent, qui n'était pas enfoui si profondément, en tout cas pas autant que ce que l'on pouvait penser. On a aussi... trouver tous les remblais pour l'aménagement de la place au 19e siècle. Et dans ces remblais, ça servait un peu de déchetterie, en fait, hein, au 19e siècle. Et donc, il y avait énormément de céramique, de bouteilles, en verre, etc. Donc, tout ce que les gens jetaient, finalement, pendant le chantier, lors du remblaiement de la place au 19e siècle. Donc, c'est pas très ancien, mais c'est intéressant quand même d'avoir des éléments sur cette culture matérielle du 19e siècle. Et puis aussi, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a eu la chapelle de l'hôpital Saint-Louis, donc du XVIIe, XVIIIe siècle. On a aussi pu observer les maçonneries de l'ancien hôtel de ville, qui date lui aussi du XVIIe, XVIIIe siècle, hein, de l'époque moderne. Et puis, tous ces éléments, par des carottages, en fait, on a réussi à atteindre les niveaux qui sont... des niveaux de zones humides, en fait, qui semblent commencer au 15e siècle. Et puis, on a réussi à atteindre les niveaux humides jusque même 5000 ans, il y a 5000 ans. Donc, on a vraiment une zone humide qui s'est anthropisée, probablement, hein, qui a duré extrêmement longtemps et qui, finalement, qui a été remblayée et assainie au 19e siècle.
Enfin, c'est impressionnant. Comment est-ce que vous êtes capable justement d'estimer que quelque chose date donc d'il y a 5000 ans, alors donc bien plus loin pour le coup que les découvertes dont vous parliez précédemment qui datent plutôt de l'époque moderne, voire encore plus récente, contemporaine ?
Alors là, essentiellement, il y a deux, trois possibilités pour dater. Le plus souvent, c'est les céramiques. Parce que les céramiques, en fait, elles évoluent au cours du temps, il y a des modes, et donc on a comme une typologie, si vous voulez, et on sait que tel type de céramique, ça correspond à telle période. Alors, ce n'est pas toujours très précis. Hein. On peut être sur un siècle de précision pour les périodes anciennes, donc ce n'est pas extrêmement précis. On a les monnaies, parfois, quand on a de la chance, où il peut y avoir des indications de règne, d'empereurs romains ou de rois de France, par exemple. Et puis, surtout, on a aussi tout ce qui est organique, on peut le dater par carbone 14, donc par des procédés physico-chimiques. Et donc là, ça nous donne aussi une précision de l'ordre du siècle à peu près. Donc c'est comme ça, là, en l'occurrence, les 5000 ans, c'est grâce à des charbons de bois, hein, donc de la matière organique qui a été datée par carbone 14, radiocarbone.
D'accord. Et donc, vous disiez avoir creusé forcément assez profond, on va dire, pour tomber là-dessus. Comment est-ce qu'on décide justement à quelle profondeur on fait? Puisque là, sur ces diagnostics, vu qu'on est sur un temps assez court, on ne peut pas se permettre de lancer des grands, grands chantiers comme ça. Donc, comment se font les choix justement des endroits où on cherche pour être sûr que ce soit le plus représentatif des éventuelles fouilles qui seraient entreprises par la suite?
Alors déjà, la loi nous oblige à ouvrir, à faire des tranchées qui représentent à peu près 7 à 10% de la surface du futur aménagement. Donc on a déjà cette contrainte-là. Et puis ensuite, on va essayer de positionner nos tranchées, nos fenêtres d'observation, là où on estime, grâce à d'autres sources, des plans anciens, des textes, qu'il y a le plus de vestiges. Donc on essaye un petit peu de placer au mieux nos fenêtres d'observation. Et puis après, la profondeur, bah, ça va dépendre surtout de l'aménagement futur. Si l'aménagement, comme c'était prévu initialement, avec un parking souterrain, va jusqu'à 8 mètres de profondeur, on va essayer autant que possible, c'est pas toujours possible, mais de descendre jusqu'à 8 mètres de profondeur. Si l'aménagement, c'est seulement 1 mètre de profondeur, on n'ira pas beaucoup plus loin que 1 mètre de profondeur. Voilà. Puis il y a aussi toutes les questions de sécurité, parce qu'évidemment, on peut pas creuser comme ça en pleine ville à des profondeurs aussi importantes, sans faire des paliers de sécurité, ce genre de choses. Et c'est pour ça que là, dans le cadre de cette première tranche de diagnostic, on a réussi à descendre avec une pelle mécanique classique, hein, un terrassement classique, jusqu'à 6 mètres à peu près de profondeur dans une seule tranchée. Et après, pour aller plus loin encore, on a fait donc ces carottages, hein, parce que donc juste une petite carotte, toute petite, hein, pour essayer d'avoir les niveaux archéologiques antérieurs à ces 6 mètres de profondeur.
Alors justement, quand vous tombez sur de belles découvertes comme ça, après, qu'est-ce que vous en faites concrètement?
Tout ce qui est mobilier archéologique, donc la céramique, tout ce qui est éléments organiques, on a trouvé des chaussures en cuir aussi, on a trouvé du métal, évidemment, tout ce mobilier archéologique, il est nettoyé d'abord, puis après il est étudié par des spécialistes, il est dessiné, photographié, enregistré, hein, on va faire une sorte de catalogue, d'inventaire. Puis après, il est stocké dans un dépôt archéologique, hein, un dépôt pérenne ensuite, puisque tous les objets archéologiques maintenant appartiennent à l'État. Voilà.
Et donc c'est aussi le cas parce que là on a parlé de la première phase, mais aussi pour la deuxième phase de diagnostic qui a été lancée plus récemment, du coup fin septembre, début octobre, si je dis pas de bêtises. Et là, encore de belles découvertes qui ont été faites, et notamment une maison abandonnée et un manoir.
Voilà, donc là on est sur un peu plus au nord, on s'est déplacé donc sur les boulevards et les parkings qui font le pourtour de l'île aux Gambetta, juste au nord de la place du 11 novembre. Alors, on est descendu moins profondément, parce que là, les aménagements, s'il y en a, ça sera seulement des réseaux enterrés, donc ils n'iront pas à des profondeurs aussi importantes que pour la première tranche. Donc, on est descendu à peu près maximum 1,50 m de profondeur. Et on a retrouvé d'abord toutes ces séries de remblais du 19e siècle. Toute cette zone a été extrêmement remblayée, hein. D'abord, le comblement de l'ancien lit de la Mayenne, puisque la Mayenne ne passait pas au même endroit qu'actuellement. Elle a été détournée au 19e siècle. Donc, ils ont comblé l'ancien lit totalement, donc avec d'énormes remblais. Ils ont aménagé les quais aussi sur les bords du nouveau cours de la Mayenne, l'actuel. Donc là encore, énormément de remblais. Mais dessous, effectivement, on a découvert alors une maison, en tout cas un bâtiment. On ne sait pas quel était l'usage, s'il était résidentiel ou fonction artisanale, par exemple. Donc un bâtiment relativement bien conservé, hein, qui a fonctionné jusqu'au 19e siècle, jusqu'au remblaiement de la zone. On ne sait pas exactement de quand quand est-ce qu'il a été construit réellement, parce qu'il aurait fallu aller plus profondément pour le savoir. Et puis la deuxième découverte effectivement notable, c'est un édifice assez important, parce qu'il est présent sur des plans anciens. Il fait à peu près 270 mètres carrés de surface, donc un grand bâtiment qu'on a parfois qualifié effectivement de manoir. Bon, en tout cas, c'est un logis assez imposant, dont on a ouvert qu'une toute petite partie, vu qu'un angle de mur, en fait, et puis un petit bout du sol intérieur où il y avait un sol de tomettes, en fait, de petits... pavés en terre cuite. Et puis les murs étaient enduits, probablement avec des enduits peints d'ailleurs, donc des peintures murales. Donc on est quand même sur un édifice résidentiel probablement et relativement aisé, hein, habité par quelqu'un de relativement aisé.
Et vous disiez que là, vous avez vu seulement des petites parties. C'est pas trop frustrant à chaque fois d'avoir un aperçu et de pas pouvoir voir, en tout cas pour le moment, à quoi il ressemblait en entier?
Ah si, c'est un petit peu frustrant. On peut pas répondre aussi à toutes les questions, hein. Notamment par exemple ici, en l'occurrence sur ce bâtiment, sa datation. On ne sait pas trop parce que c'est pareil, il aurait fallu aller en dessous en fait pour avoir de la céramique par exemple ou des monnaies qui auraient permis de dater sa construction. Donc si, c'est toujours un peu frustrant, mais enfin on s'habitue avec l'expérience, hein, puisque c'est toujours plus ou moins le cas. Donc voilà, après on verra s'il y a des prescriptions de fouilles dans le futur pour étudier ça de manière plus exhaustive.
Et donc, il y a ces grands bâtiments qui ont été mis à jour, en tout cas découverts. Et aussi, en parallèle, où il y a toujours à côté ou dedans, je ne sais pas exactement comment dire ça, mais des objets qui racontent aussi la vie des habitants à cette époque-là. Est-ce que pour vous, c'est aussi important d'avoir, je ne sais pas, des bouteilles, des céramiques, que de tomber sur un grand bâtiment comme ceux dont on parlait à l'instant ?
Oui, c'est tout aussi important. Ça renseigne pas forcément la même chose. Alors le mobilier, comme on l'a dit déjà, ça permet de dater, donc c'est quand même essentiel. Et puis après, oui, ça renseigne sur la culture matérielle des habitants du secteur ou de l'activité. On peut avoir aussi du mobilier archéologique qui correspond à des activités artisanales, par exemple. Donc ça peut être extrêmement intéressant. S'il y a de la métallurgie, par exemple, on a trouvé d'ailleurs un certain nombre de scories métalliques. Donc c'est finalement les déchets de l'activité métallurgique, donc pour le 19e siècle, mais c'est quelque chose qui n'est pas si connu que ça en fait. Et donc c'est intéressant de renseigner ces activités, de savoir qu'est-ce qu'on produisait à Laval comme métal, de quelle façon, etc. Est-ce que c'était dans des hauts fourneaux, est-ce que c'était sur place? Il y a toutes ces questions qui peuvent être abordées. Même chose pour la céramique, ça donne aussi une idée de la qualité des services, des plats, etc., qui sont servis à table. Ça donne une idée du niveau de vie des habitants, enfin plein de choses, hein. Alors, effectivement, on a beaucoup à tirer du mobilier archéologique.
Là, la deuxième phase, elle s'est terminée fin octobre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors maintenant, l'État attend de nous un rapport scientifique et administratif qui présente les résultats de ces opérations archéologiques. Donc on a entamé les études de mobilier et puis bientôt on va commencer à rédiger ce rapport qui devrait être envoyé l'année prochaine au premier trimestre ou premier semestre 2021 et donc qui permettra à l'État de, en fonction aussi de l'aménagement futur, de décider s'il faut faire des fouilles complémentaires ou pas. Voilà.
Et au niveau du calendrier, du coup, si fouilles il y avait, elles pourraient être entreprises quand ?
Ça dépendra de la ville, hein, qui est l'aménageur ici, disons que deuxième semestre 2021 ou 2022, ça pourrait être déclenché, oui.
Merci Hugo Meunier d'avoir répondu à mes questions. On rappelle donc que vous êtes archéologue, entre autres ici pour la ville de Laval, par rapport aux travaux du centre-ville sur la place du 11 novembre.
Merci à vous.
Et on fait une petite pause musicale, on revient tout de suite après Childish Gambino. Yeah. Oh no, no. Share. Look what this feeling has done to me. There's something deep in the air. Just holding hands, looking comfortably. Oh, I don't know why, but every time I see you smiling, I'm tired of running, tired of playing, tired of hiding. If we could be together, would that make
love, 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 you understand what I'm saying. You won't end up in the lost and found. No.
Like this, hang with Bay at the beach like this, conversations with Keish like this, never thought it could be like this, be the man like I am like this, dance around, shake your hips like this, mess around, make a hit like this.
C'était Childish Gambino sur l'autre radio. Vous êtes bien dans l'émission L'Agité du local. Et Claire, on va continuer notre semaine à la résidence Habitat Jeune Pierre de Coubertin à Laval.
Et oui, hier nous avions vu comment s'organisent les animations et événements de la résidence pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, la directrice Dominique Ginquière nous explique les décisions qu'elle a dû prendre pour le premier et le deuxième confinement.
Donc là, le premier confinement, on a fermé. Alors, c'était un peu particulier parce qu'il a fallu quasiment quitter la résidence comme ça. Là, on nous a dit, ben, vous fermez et vous partez. Donc là, c'était un peu particulier. Donc on a tout fermé, autant les parties hébergement que la partie restauration. Au niveau des salariés, j'étais au début la seule à revenir sur la résidence en tant que responsable. Donc j'ai beaucoup collaboré avec les résidents. Donc il y a eu une sorte de vie qui s'est faite à l'intérieur de la résidence pour continuer à gérer le quotidien. Premier confinement, ce qui a été un peu particulier, c'est une sorte de, comme c'était de ville morte, quoi, un petit peu, enfin, ça fait un peu cette sensation-là. Il a fallu trouver déjà tout ce qu'il fallait pour répondre aux gestes barrières. Donc il y avait donc le gel qu'on n'avait pas, les masques qu'on n'avait pas. Donc il y a eu tout ça à devoir mettre en place. Le jour où on venait, on était attendu. C'était important qu'il y ait quelqu'un qui passe et puis qui puisse échanger, voir comment ça se passait. Enfin voilà, un lien. Et sur la deuxième période, je pense que c'est encore plus important parce que on a vécu tout le premier confinement un peu comme une surprise et puis quelque chose de nouveau. Enfin voilà, c'est la première fois qu'on se retrouvait un peu à une liberté freinée. Là, on est sur une deuxième phase, donc on sait déjà ce qu'on a vécu et je pense qu'on tolère beaucoup moins bien que la première fois. Et les risques aussi de mal-être, peut-être voire plus au niveau de tout ce qu'on peut appeler la santé mentale, peut être beaucoup plus importante, à mon avis, cette phase, enfin, deuxième phase, que sur la première. Après, on a mis tout un protocole aussi au niveau de l'entretien. Donc chaque poignée, chaque interrupteur, tout ça s'est nettoyé. Et la partie restauration, donc on a pu la rouvrir entre deux. Donc là aussi, il a fallu mettre tout un protocole en place, très très lourd, avec renforcement des équipes pour servir, etc. Donc c'est très très compliqué. Et là, sur la deuxième période, on est à nouveau fermé. Donc là aussi, c'est un impact important sur le personnel, la restauration, puisque là, ils sont en chômage partiel. Donc il y a toute une dynamique là qui est un petit peu éteinte, les gens sont chez eux, ils viennent ponctuellement travailler, donc là aussi là il y a une vigilance aussi à avoir auprès du personnel ou au niveau de la santé mentale, ça peut aussi avoir des impacts, quoi. Ils sont là que ponctuellement pour quelques résidents qui mangent là, quoi. On a eu un cas qu'on a isolé et du coup on a tous passé le test. Donc on était quand même bon, plus de 80, plus les salariés, on va dire une bonne dizaine. On a dû avoir, en faisant ça, que deux autres cas qui étaient asymptomatiques sur l'ensemble. Du coup, quand on a eu le cas qui a été diagnostiqué, donc après on est contacté, etc. avec l'ARS, je veux dire, ça s'est très très bien organisé. J'ai trouvé que c'était, c'est facilitateur en tout cas pour nous. Ça, vu le nombre qu'on était, moi, je pense qu'on peut faire confiance aussi aux résidents. Ils s'adaptent très très bien aussi à la situation telle qu'on la vit, quoi. Peut-être mieux que les autres. Hein. Donc voilà. Non, je trouve que bon, voilà, c'est ça. Il faut laisser aussi la jeunesse. Vivre ce confinement-là à leur façon, et puis trouver, à mon avis, c'est eux qui doivent trouver aussi des solutions, parce que bon, voilà, on ne sait pas qu'est-ce sera demain, est-ce qu'on aura d'autres choses comme ça qui se présenteront, il va falloir vivre avec, donc il faut trouver des solutions en tout cas.
Ce deuxième confinement demande donc beaucoup de protocoles et d'adaptations pour les équipes de la résidence Habitat Jeune de Laval. On retrouvera d'ailleurs demain le service entretien qui nous expliquera comment leurs journées ont complètement changé.
Et oui, vous l'avez compris, donc toute notre série cette semaine dédiée au confinement au foyer de jeunes travailleurs de Laval. Et puis on continue comme chaque jour avec, en fin d'émission, le journal des initiatives, présenté par toi Claire. Et depuis le début du confinement, vous le savez, les médiathèques s'adaptent en drive.
À Mêlée-du-Maine et à Gré-en-Bouët, retrouvez vos livres, BD, CD, magazines, DVD préférés en drive. Il faut passer commande au 02 43 02 59 56, puis consulter les horaires de vos médiathèques. Pour celle du Mêlée-du-Maine, elle est ouverte du mardi au samedi, et pour celle de Gré-en-Bouët, le mercredi et le samedi.
Et puis un petit rappel, à Laval, on prend toujours soin de vos animaux de compagnie.
À coups de patte, on propose de faire la toilette de vos animaux. Vous déposez vos animaux sur le pas de votre porte. Élise, la gérante, les récupère et vous les redépose une fois la toilette terminée. Pour Lise, c'est un moyen de prendre soin de vos animaux sans les blesser, car, par exemple, tondre vos animaux vous-même peut être dangereux. Laissez du coup faire vos professionnels. N'hésitez pas à la contacter au 02 43 64 10 84.
Oui, puisqu'on le rappelle, Claire, hein, les toiletteurs font partie des professions qui ont le droit d'exercer, donc sont toujours ouverts en temps de confinement. Sur la page Facebook Laval Patrimoine, une vidéo inattendue a été mise en ligne.
Les bains-douches ont fermé à cause du confinement, Laval Patrimoine propose donc de vous les faire redécouvrir. La petite particularité, la vidéo est en langue des signes. Elle est aussi sous-titrée, une façon d'être encore plus accessible et de redécouvrir les lieux, accompagnée de Marina Guitois, médiatrice du patrimoine, et Vincent Vejoie, formateur en langue des signes français. On y parle histoire, mosaïque, vitraux, bref, une vidéo à découvrir sur la page Facebook Laval Patrimoine.
En attendant, on espère bien sûr de pouvoir aller dans les bains-douches à Laval et dans plein d'autres lieux culturels. Merci Claire. En parlant de compte Facebook, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, bien sûr, l'autre radio. Et puis, de laisser vos initiatives sur le répondeur au 09 70 40 59 40. Allez, encore une fois, au 09 70 40 59 40. C'est la fin de notre émission L'AJT du local. Merci Claire.
Merci Marie, à demain tout le monde.
On se retrouve demain bien sûr, mais avant toujours sur votre antenne, le meilleur de votre émission quotidienne justement à 19h, place aux agités du mois. À 20h ce sera The Voice of Cassandre, suivi à 21h de Frères de Chaussures. Prochaine émission donc demain à 12h15, bonne journée, bon après-midi et à demain.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.